Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Meurtre de 15 civils ce week-end à Tali en Ituri par la milice Codeco. L'administrateur de Djougou condamne les faits et s'est dit inquiet de la recrudescence des attaques de cette milice. Pour UFM Apela, ces actes compromettent les accords de paix signés l'an dernier à Arou. Sud Kivu, des cas d'incendie des maisons deviennent de plus en plus inquiétants à Bukavu. Il ne se passe pas trois jours sans enregistrer des maisons calcinées avec tous les biens. Entre-temps, les véhicules anti-incendie qui ont été dotés dans les communes ne sont toujours pas fonctionnels. Et puis, après la publication des résultats provisoires des élections provinciales, les assemblées provinciales du Nord Kivu et de l'Ituri, sous état de siège, ne se sont toujours pas réunies, ce alors que dans d'autres provinces, on se prépare pour les élections des gouverneurs et des sénateurs. Pour en parler, nous recevons le député national Jacques Djoli, professeur des droits constitutionnels. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. L'administrateur du territoire de Djougou condamne fermement le meurtre de 15 civils samedi à Tali par un groupe de miliciens de la Codeco. Dans une déclaration ce lundi à la presse, Rufin Mapela s'est dit inquiet de la recrudescence des attaques de cette milice ainsi que des représailles du groupe d'autodéfense dans plusieurs entités du territoire, dont Moussaba, Mabendi, Mbijo, Mbogi et Café, des actes qui compromettent les accords de paix signés l'année dernière à Arou, environ 300 km de Bounia. Rufin Mapela invite la population de Djougou ainsi que le groupe de 5 communautés victimes, soit G5, à la retenue et surtout à éviter le règlement des comptes qui, selon lui, risque de plonger encore l'Ituri dans le cycle des violences. L'administrateur du territoire de Djougou, joint par Ezekiel Mousalia.
Nous avions observé une accalmie totale dans l'ensemble du territoire de Djougou. Mais nous n'avons pas compris comment le cycle de violence a repris. Il y a eu des problèmes aux côtés des groupements Moussaba au niveau de Mbijo, au niveau du village Mbogi où les autodéfenses et les groupes armés Codeco se sont s'affrontés pendant autant de jours. Il y a eu des problèmes qui s'est passé sur la route, toujours sur cette route-là, au niveau des villages Tali où Codeco ont tué 15 personnes de CGMA. Nous regrettons parce que tout ce que nous sommes en train de fournir comme effort pour que la paix revienne dans ce territoire de Djougou, nous retournons toujours dans les cases de départ. Nous savons qu'il y a des mains noires qui continuent à faire de gauche à droite. Nous demandons seulement à la population, aux communautés là, d'éviter les représailles. Parce que ce n'est pas ce moment-là de revenir encore dans les cycles de violence dans les territoires de Djougou.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, une personne a été tuée et deux autres blessées hier dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF à Kokola, village du groupement de Bambouba, dans le secteur de Benimbao. Plusieurs autres personnes ont été enlevées. Selon la société civile de Maïmoya, village voisin de Kokola, les victimes ont été attaquées dans leur champ à la mi-journée. Cette structure citoyenne recommande à l'armée d'organiser des patrouilles de combat dans cette région où des rebelles des EDF circulent librement selon elle. Pendant ce temps, à Kananga, les jeunes des différents mouvements citoyens dénoncent la guerre interminable de l'Est de la RDC et qui continue à occasionner des morts jusqu'à ce jour. Unis ce week-end sur la place de l'Indépendance, ces jeunes se sont opposés à toute négociation avec les agresseurs et leurs alliés et appellent à un élan citoyen pour soutenir les actions des FARDC engagées dans le combat contre les ennemis de la paix en RDC. Je vous propose un extrait de leur déclaration dans ces propos recueillis par François Kadima.
Nous sommes dans l'obligation de nous unir pour défendre notre pays face à l'agression car, malgré les génocides de plus de 15 millions de nos frères et sœurs depuis 30 ans déjà, personne ne nous écoute et ne prend au sérieux nos cris. Les seules options qui nous restent sont l'unité et la détermination de tous les Congolais sans distinction des tribus ou des langues, car un peuple uni vaut l'armée la plus puissante au monde. Pour y arriver, chacun de nous doit produire le meilleur de soi. Aux gouvernants de tout faire pour gagner la guerre, ils doivent imposer le respect par la force. Surtout, évitez tout dialogue avec l'agresseur, car ça ne sera qu'une accalmie pour gagner du temps avant de reprendre dans 5 ou 10 ans. Aucun centimètre ne peut être cédé, car nous aurons des comptes à rendre aux générations futures.
Direction le Kasaï oriental, 196 déplacés venus de Malimbankoulou et Luena dans la province du Olomami ont été installés hier dimanche par le gouvernement provincial du Kasaï oriental, d'après la chef de division provinciale des actions humanitaires et solidarité nationale. Deux maisons ont été prises en location pour coordonner leur assistance humanitaire. Esther Ndalafina.
10 jours après leur arrivée à Mbujimayi, ces déplacés venus de Malimbankoulou et de Luena ont désormais une adresse temporaire. Depuis leur arrivée, ces déplacés passent nuit à la Belle Étoile dans un hangar construit pour les jeunes à la mairie où ils se sont installés eux-mêmes pour solliciter l'assistance. Ils sont au total 196, dont 42 femmes, 18 hommes et 96 enfants. Ceux venus de Malimbankoulou ont pris des baleinières jusqu'à Bukama. Ces déplacés ont tous voyagé par train jusqu'à avant d'atteindre Mbujimayi par véhicule. Marthe Bajana, chef de division provinciale des actions humanitaires et solidarité nationale, affirme que l'autorité provinciale s'implique pour leur prise en charge.
Nous les avons logés à deux endroits différents depuis hier soir. Les hommes dans une maison et puis les femmes et les enfants dans une autre maison. L'autorité provinciale a décidé qu'après l'installation, elle va les prendre en charge. Le moment où je vous parle, je suis là où ils sont pour leur donner quand même quelque chose qu'il faut mettre sous leurs dents.
Marthe Bajana invite les hommes de bonne volonté à venir également en aide à ces déplacés internes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, au sud Kivu, des cas d'incendie des maisons deviennent de plus en plus inquiétants. Il ne se passe pas 3 jours sans qu'on enregistre des maisons calcinées avec tous les biens. Les véhicules anti-incendie qui ont été dotés dans les communes de Bukavu ne sont toujours pas fonctionnels. Dans la nuit d'hier dimanche, un bâtiment abritant les bureaux des ministres provinciaux a pris feu dans la commune urbaine d'Ibanda. Emmanuel Elamejio Kabidi, reportage.
Les cas d'incendie de maisons les plus récents sont enregistrés dimanche 18 février dans les communes urbaines de Kadutu et Ibanda. Des ménages entiers sont restés sans abri, tous les biens sont calcinés par le feu. La semaine dernière, une bonne partie du marché central de Kadutu est rendue en cendres par un feu d'origine inconnue. À Ibanda hier, c'est un bâtiment qui abrite les ministères provinciaux qui a pris feu venant de la parcelle voisine. Les ministères du genre et de la communication ont vu leurs meubles et autres objets de bureau calcinés.
Et les maisons qui avoisinent notre cabinet, ce sont ces maisons-là qui ont pris feu. Bon, on a commencé à appeler le maire, madame le bourgmestre. C'était trop tard vraiment. Le bâtiment ici abrite 3 commissariats. Il y a communication et presse. Au rez-de-chaussée, il y a ma collègue Dijon. Et au deuxième niveau, il y a les commissariats de l'environnement. Les machines ont été endommagées, scanners, les ordinateurs et les imprimantes.
Avec ou sans camion anti-incendie, la question se pose si les maisons d'habitation et les bureaux divers sont dotés des extincteurs pour une intervention urgente. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Restons au sud Kivu. Toujours pas de plénière à l'Assemblée provinciale. Les nouveaux députés nouvellement élus s'impatientent. La grève des agents administratifs persiste, mais aussi les moyens logistiques attendus du gouvernement provincial tardent à venir. La population s'en inquiète. Le point avec Emmanuel Elamejo.
La rentrée parlementaire prévue le 5 février dernier, comme partout ailleurs, n'a toujours pas eu lieu à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Les 44 députés provinciaux nouvellement élus qui s'étaient présentés ont été repoussés par les agents administratifs en grève. La population dit toute son inquiétude et se demande s'il y aura élection des sénateurs et des gouverneurs de province au Sud Kivu avec les électeurs qui ne siègent pas.
Il est quand même anormal que déjà au niveau des 26 provinces, on puisse déjà procéder à l'installation des bureaux provisoires au niveau des assemblées provinciales. Maintenant, au niveau du site qui vous fait un cri d'alarme vraiment adressé, premier citoyen du pays qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, on risque encore de connaître un retard. Nous voudrions que nos institutions, un nouvellement élu, des députés provinciaux qui sont là, les conseillers communaux qui sont là, ils doivent être installés. Et ça, c'est une priorité.
Deux semaines après, la situation reste la même dans les les trois communes urbaines. Les conseils municipaux de Kadutu, Bagira et Ibanda ne sont toujours pas installés. Pour décanter la situation, la société civile envisage des actions afin que le Sud Kivu fonctionne au même rythme que d'autres provinces. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Nord Kivu, au moins deux tiers des habitants de la ville de Beni n'ont pas accès à l'eau potable de la régie des eaux depuis 4 jours. Ils s'approvisionnent en eau des puits et autres sources d'eau aménagées. Une situation provoquée par les travaux de modernisation de la voirie urbaine par la société des services de l'entreprise de construction Viumbira. Situation consécutive également aux pannes survenues au niveau de l'usine de traitement des eaux de Toua. André Kitenge a fait le tour des quartiers concernés. Voici son reportage.
Ce sont les habitants des quartiers Malépé dans la commune de Béou, le quartier résidentiel dans la commune de Bungulu et Matongé dans la commune de Moulekera qui n'ont pas accès à l'eau potable. Des tuyaux d'eau de la régie des eaux sont coupés dans plusieurs endroits de ces quartiers, affectant le réseau de distribution d'eau de la régie des eaux. Conséquence, tôt le matin, des hommes, femmes et enfants avec des récipients en main parcourent la ville à la recherche d'eau potable. Cette femme gardée malade dans un hôpital du quartier rencontré ce lundi matin explique ce calvaire.
Nous venons de la Formeca où nous avons des malades à l'hôpital et voilà que nous manquons de l'eau. Les tuyaux d'eau ont été coupés pendant les travaux et pourtant l'eau jaillissait très bien.
Cet habitant qui vient du quartier résidentiel dans la commune de Bungulu explique que l'eau ne coule pas au robinet dans son quartier depuis un mois.
Moi je vis dans le quartier résidentiel et c'est depuis un mois qu'on n'a pas d'eau. Alors dans ces cas on est obligé chaque matin de venir dans d'autres quartiers, d'autres avenues pour chercher de l'eau parce que chez nous la situation est devenue grave.
Contacté, Jules Méni, le chef de centre de la régie des eaux Béni, évoque plusieurs raisons qui sont à la base de cette situation. Il s'agit notamment de la panne survenue sur deux des groupes électrogènes et enfin, l'endommagement de plusieurs tuyaux d'eau par la société des services Viumbira qui exécute les travaux de modernisation de la voirie urbaine à Béni. André Kitenge, Béni Radio Okapi.
Santé, le choléra s'intensifie à Likasi dans le Haut-Katanga. En l'espace d'une semaine, le centre de traitement de choléra a enregistré plus de 150 cas. La prise en charge est assurée grâce à la division provinciale de la santé qui disponibilise les intrants. L'ONG internationale Médecins sans frontières France en a fait aussi autant le vendredi. Pour sa part, l'autorité locale demande à la population le strict respect des mesures d'hygiène pour vaincre cette épidémie qui a déjà causé mort d'hommes. Jean Gandou, reportage.
La ville de Likasi, hormis le centre d'instruction militaire Moura, a notifié jusque ce vendredi 250 cas de choléra, dont le premier malade était signalé au mois de décembre de l'année dernière. Les victimes sont soignées au centre de traitement de choléra, situé à l'hôpital général de référence d'Ako dans la commune de Kikula. Et depuis lors, 14 personnes en sont mortes, dont 7 dans la communauté. Du 12 au 15 février dernier, ce centre a enregistré 158 malades. 9 parmi eux ont perdu la vie, rapportent les sources de ce centre. À noter que, même si toutes les communes de Likasi sont touchées, la plupart des victimes proviennent de la commune de Kikula, plus précisément des quartiers Okito et Kampemba. Les habitants de ce quartier consomment l'eau d'un cours d'eau et des puits non assainis, ce qui serait à la base de la propagation de cette épidémie, renseigne l'autorité urbaine. Cette dernière recommande que tous les cas suspects soient référés au centre de traitement de choléra où la prise en charge est gratuite. Entre-temps, la radio communautaire de Likasi a mis à la disposition des relais communautaires des espaces pour la sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène à observer pour éviter la maladie qui continue sa progression. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Dans un contexte de tensions grandissantes entre Israël et la bande de Gaza, l'Égypte a entrepris la construction des murs et le nivellement des terres le long de sa frontière avec la bande de Gaza, ce en prévision d'une offensive israélienne visant la ville frontalière de Rafah. Et puis, dans les régions reculées de l'Afrique, les pangolins, ces créatures solitaires et nocturnes, sont rarement observés en plein jour. Leur existence devient de plus en plus précaire, alors que leurs habitats sont grignotés par l'expansion humaine et que dans certaines régions, ils sont traqués par des trafiquants. Ces mammifères sont prisés pour leurs écailles, utilisées dans la médecine traditionnelle, et leur chair est considérée comme un mets délicat dans certains pays. Et bien que protégés par des lois internationales, les pangolins sont aujourd'hui considérés comme menacés d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature.
L'invité.
Après la publication des résultats provisoires des élections provinciales, les assemblées provinciales du Nord Kivu et de l'Ituri, sous état de siège, ne se sont toujours pas réunies, ce alors que dans d'autres provinces, les députés provinciaux se préparent pour les élections des gouverneurs et des sénateurs. Cela constitue une violation flagrante des dispositions de l'article 15 de la loi sur la libre administration des provinces qui stipule que l'assemblée provinciale se réunit de plein droit en session extraordinaire 15 jours après la publication des résultats provisoires. C'est ce qu'indique le député national Jacques Joly, professeur des droits constitutionnels. Invité de Radio Okapi ce midi, il répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifindangoy.
Après publication des résultats provisoires des élections provinciales, les assemblées provinciales sous état de siège ne sont toujours pas réunies. N'est-ce pas une violation flagrante des dispositions de l'article 15 de la loi sur la libre administration des provinces qui stipule que l'assemblée provinciale s'est réunie de plein droit en session extraordinaire 15 jours après publication des résultats provisoires?
Je crois que le message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aux responsables politico-administratifs de la province du Nord Kivu est clair. Il a été dit que comme les territoires de Masisi et Rutshuru et une partie de Nirangongo n'ont pas pu élire leurs députés provinciaux, il n'était pas opportun que les députés puissent se retrouver en session extraordinaire pour valider leur mandat. Ça, c'est un argument d'opportunité, mais il y a aussi le fait que cette province est actuellement dans une situation d'état de siège, et ce n'est pas la première fois. Je crois que lorsqu'il y avait la situation d'état d'urgence sanitaire, la province du Nord Kivu a dû attendre les élus des Lubero et je crois du territoire de Beni pour, n'est-ce pas, se réunir et constituer leur bureau.
Est-ce qu'un état de siège décrété sous une législature passée devrait continuer à produire des effets alors que le Parlement, habilité à le proroger, n'existe plus et le gouvernement, ayant bénéficié de cette habilitation pendant les vacances parlementaires, est aussi démissionnaire?
Oui, en droit, l'état de siège est proclamé sur pied de l'article 85 par le président de la République, et l'état de siège peut prendre fin lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, par une loi, décident. L'État ne meurt jamais, la continuité, et ils sont en train d'assurer les affaires courantes. Et cette question d'urgence ou de siège, c'est une question fondamentale dans la survie de la nation.
Qu'adviendra-t-il alors pour les élections des sénateurs dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu si les assemblées provinciales ne savent pas se réunir?
Mais je crois qu'il y a eu prolongation, mais dans tous les cas, tant que nous sommes dans l'état de siège, il n'y aura pas convocation de l'assemblée provinciale par les directeurs administratifs. Il n'y aura donc pas bureau d'âge, il n'y aura donc pas installation du bureau définitif, donc il n'y aura pas élection de sénateurs ou de gouverneurs. C'est assez dommage, compte tenu de l'impératif et la fonctionnalité de ces deux provinces, mais dura lex sed lex. Nous espérons que très rapidement nous allons sortir de cette situation exceptionnelle.
Et pourquoi avoir organisé les élections dans ces deux provinces si les pouvoirs des élus provinciaux ne seront pas validés comme partout ailleurs?
Je crois que c'est une situation provisoire. Le chef de l'État est sur tous les fronts, militaire, diplomatique. Et nous, Congolais, nous avons besoin que nous puissions retrouver l'intégrité de notre territoire. Nous avons aujourd'hui plus de 6 millions de personnes qui sont en errance. Oui, les élections ont été organisées, à Ituri notamment, sur l'ensemble du territoire. Mais dans le Nord Kivu, on n'a pas organisé les élections sur l'ensemble du territoire. Et il est important qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour retrouver la normalité institutionnelle.
Ne trouvez-vous pas que l'état de siège, qui est une situation d'exception et ne devrait pas durer trop longtemps, devient aujourd'hui une mesure discriminatoire pour les deux provinces qui se voient désormais être privées des représentants au sein des institutions nationales dans le Sénat?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, dans la mesure où l'unité de la République exige que toute la province, mieux toute la population congolaise, soit bien représenté au niveau national, mais que surtout au niveau provincial, que les institutions fonctionnent de manière régulière. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc la situation est très grave et les analyses politiques ou politiciennes ne doivent pas nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est comment restaurer l'intégrité du territoire de la République. C'est vrai qu'à Nitouri, il y a eu une évolution positive de la situation. On a pu organiser des élections sur l'ensemble du territoire de la province. Mais il ne faut pas oublier que l'état de siège, c'est d'abord une réponse juridique et que la sortie doit se faire aussi de manière juridique, pour ne pas dire constitutionnelle.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
Merci, monsieur Michel Kifindango.
Notre invité est député national et professeur des droits constitutionnels. Jacques Joly répondait aux questions de Michel Kifindangoy. Par ici, prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotati-Vueta sous la supervision de Martin Sebujangwe, Pierre Diassinois à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.